Journal présenté par Anne Fauconberg, bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. 4 mois de prison avec sursis pour avoir aidé des migrants. La condamnation en appel à l'encontre de Cédric Herrou interpelle associations et certains partis politiques ce soir. Cédric Herrou qui demande à Emmanuel Macron de s'emparer de la problématique spécifique de cette vallée de la Roya à la frontière franco-italienne. Explication de Ludovic Piétenu au début de ce journal. Emmanuel Macron qui a aussi du travail pour réorienter l'économie française vers l'exportation. Le déficit commercial du pays se creuse selon les derniers chiffres des douanes. Précision et analyse dans un instant de Vincent Ossius de l'agence du gouvernement France Stratégie. La réserve fédérale américaine fait ressurgir le spectre de la crise de 2008 dans un rapport sur l'endettement des Américains. C'est ce que nous verrons avec Marie Viennot. Le Venezuela de plus en plus isolé sur la scène internationale. L'ONU dénonce un usage excessif de la force tandis que 15 pays de la région sont réunis à Lima, au Pérou, pour évaluer la situation du régime controversé de Nicolas Maduro. Nous ferons le point avec Jacqueline Fardel. Enfin, une belle image de la démocratie kényane aujourd'hui pour le scrutin présidentiel. En dépit de quelques scènes de cohue, les citoyens se sont déplacés en nombre pour choisir leur nouveau chef de l'État. Le récit de notre correspondant Bruno Meyerfeld à la fin de ce journal. Mais avant de développer les titres, nous apprenons que le sénateur du Rhône, Michel Mercier, renonce finalement à intégrer le Conseil constitutionnel. Il estime ne pas pouvoir y siéger avec la sérénité nécessaire. Conséquence de l'enquête en cours sur les emplois d'assistante parlementaire confiée à ses deux filles. Gérard Larcher devra procéder à une nouvelle nomination. Nous y reviendrons dans le journal de 22h avec Ézéchiel Fernandez. Condamné ce matin en appel à 4 mois de prison avec sursis pour avoir aidé des migrants dans la vallée franco-italienne de la Roya, l'agriculteur Cédric Herrou va se pourvoir en cassation. Il a annoncé ce matin qu'il continuerait toutefois à se battre car l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est selon lui le signe que la France est en train, je cite, de perdre ses fondamentaux. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Anne.
La décision de justice interpelle aussi les associations d'aide aux migrants évidemment et quelques partis politiques comme Europe Écologie Les Verts pour qui cette condamnation de ce citoyen exemplaire fait de la solidarité un délit. Cédric Herrou qui a aussi interpellé Emmanuel Macron ce matin sur la situation des migrants à la frontière franco-italienne.
Et c'est avec lui l'essentiel des partis de gauche qui interpellent le président de la République. C'est le cas de l'ancien eurodéputé José Bové. Il est comme Cédric Herrou, un militant et un agriculteur.
C'est pas Cédric Herrou aujourd'hui qui devrait être condamné, mais c'est bien la France par l'Union européenne pour manquement au droit européen sur l'accueil. On ne peut pas avoir un discours en disant plus personne doit être à la rue et d'un autre côté avoir des actes d'État qui méprisent le droit d'accueil, qui méprisent la fraternité qui est dans notre devise. Ce sont eux qui font les fiers et qui disent qu'il ne faut plus voir un immigré dans la rue.
Ce confin de France à la frontière avec l'Italie, cette vallée de la Roya, se trouve dans la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. C'est une marcheuse anciennement élue sur des listes de droite qui l'a emportée. Localement, le dossier migratoire a été central pendant la campagne. Cette nouvelle députée, Alexandra Valletta-Ardisson, promet de ne pas lâcher la question.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mettre des œillères. Le seul mérite, j'allais dire, que je peux reconnaître à Cédric Herrou, c'est qu'au moins il met en lumière ce qui se passe actuellement dans les Alpes-Maritimes. Les médias, en règle générale, ont vraiment pointé le doigt sur Calais, qui est le point de sortie des migrants en France. Il y a également un point d'entrée. Et donc, si on veut régler le point de sortie, il faut régler le point d'entrée. C'est la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. C'est à nous, pouvoir public, autorité, à nous, politique, de mettre les choses au point là-dessus. On n'a pas à laisser Cédric Herrou ou d'autres associations caritatives humanitaires se saisir de ce dossier.
Alexandra Ardisson, cette députée de La République En Marche, corrige le propos de Cédric Herrou quand il demande au président de se saisir du dossier. Elle assure qu'Emmanuel Macron et le gouvernement sont mobilisés sur la question migratoire. Pour évoquer précisément ce point d'entrée franco-italien, elle sera reçue à sa demande, place Beauvau, par les services de Gérard Collomb, au début du mois de septembre, ainsi que par le préfet des Alpes-Maritimes, toujours au début du mois prochain.
Merci Ludovic Piétenu pour vos explications. 47 ex-salariés de la société Arden Forge à Nouzonville, près de Charleville-Mézières, viennent également de s'adresser au chef de l'État. Ils doivent rembourser une partie des 900 000 euros de dommages et intérêts attribués en 2010 par les prud'hommes après leur licenciement abusif. Il y a eu un trop perçu, a estimé la justice le mois dernier. Certains d'entre eux doivent rendre d'un seul coup jusqu'à 20 000 euros. Dans une lettre, il demande à Emmanuel Macron que demain, plus aucun salarié ne puisse se retrouver dans cette monstrueuse situation, selon leurs termes. Alors que l'Allemagne voit son excédent commercial toujours augmenter à cause de faibles importations, le déficit commercial de la France s'est accentué au premier semestre de cette année. Il s'élève à 34 milliards d'euros contre 23 pour la même période l'an passé, chiffre rendu public par les services des douanes ce matin. La France importe beaucoup plus qu'elle n'exporte, c'est pas nouveau, mais le déficit se creuse encore alors que le gouvernement veut d'ici à la fin du quinquennat réorienter la culture économique française vers l'exportation. Les explications de Vincent Ossius, le directeur du département économie à l'agence gouvernementale France Stratégie.
La France est dans une phase de reprise de la croissance économique et classiquement dans les phases de reprise de ce type, on sait que pour la France, ça se traduit par un creusement du déficit commercial. Ça veut dire que notre appareil productif a du mal à répondre à la demande et que les entreprises, les consommateurs, donc se fournissent plus à l'étranger que vis-à-vis des entreprises nationales. Le commerce extérieur de la France est très dépendant de quelques secteurs. Et donc on voit en ce moment, notamment l'aéronautique a des difficultés, parce qu'elle a des difficultés d'approvisionnement de pièces et de moteurs qui viennent de l'étranger, de pays partenaires, et qui ont du mal à fournir, Airbus en particulier. Et donc ça se traduit mécaniquement par des exportations moins dynamiques sous l'aéronautique. Mais effectivement, on est un peu trop dépendant de la bonne santé de ce secteur. On manque encore d'entreprises exportatrices. Et puis surtout, on manque des entreprises de taille intermédiaire, des ETI, qui sont suffisamment grandes pour pouvoir exporter, y compris loin de leur base, qui investissent en France et créent de l'emploi, qui représentent véritablement notre capacité à rétablir ce commerce extérieur.
Quels sont les leviers qu'on pourrait mettre en place pour améliorer notre capacité d'exportation ?
Il y a beaucoup de leviers, en fait. Effectivement, il y a une culture probablement de l'export et de l'international qui n'est pas suffisamment développée dans notre pays. On n'a pas suffisamment le réflexe d'aller chercher de la demande, des opportunités de croissance en dehors des frontières. Mais au-delà, il faut aussi améliorer la capacité innovatrice de nos entreprises. On sait aussi qu'on n'est pas très très bien classé dans la qualité du management au sein de nos entreprises. On n'est pas non plus très bien classé, en tout cas pas au niveau où on devrait être, compte tenu qu'on est un pays avancé, développé en termes de formation des salariés. On est en déficit de ce point de vue-là.
Vincent Ossius de France Stratégie, des propos recueillis par Camille Magnard. Le tourisme français retrouve quant à lui des couleurs. Il se porte même mieux qu'avant les attentats de janvier 2015. Le nombre de nuitées dans les hébergements collectifs a progressé de 10,2% au deuxième trimestre selon l'INSEE. La reprise s'est accentuée au printemps dernier grâce à la progression de la clientèle hexagonale et du retour des touristes étrangers. Aux États-Unis, les ménages américains sont aujourd'hui plus endettés qu'ils ne l'étaient aux prémices de la crise financière qui a démarré il y a 10 ans exactement. La Réserve fédérale a publié hier des statistiques qui montrent que l'endettement des Américains atteint aujourd'hui plus de 3 800 milliards de dollars, soit 3 200 milliards d'euros. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Ces chiffres ne tiennent pas compte des emprunts immobiliers qui ont été à l'origine de la crise, mais ils n'en sont pas moins inquiétants.
Oui, les ménages américains vivent à crédit, toujours, et encore plus qu'avant la crise, c'est ce que montrent ces statistiques. Si on ajoute les emprunts hypothécaires, on dépasse la somme de 12 000 milliards de dollars, une somme comparable à l'endettement total des ménages américains avant la crise des subprimes. Ce qui est supérieur aujourd'hui, ce sont les dettes liées aux cartes de crédit. Chaque magasin, ou presque, en propose aux États-Unis. Il est courant pour un Américain d'en avoir une dizaine dans son portefeuille. Ce sont ces crédits-là qui sont aujourd'hui supérieurs à ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Principalement parce que de plus en plus d'Américains en ont. Alors cela pourrait être une bonne nouvelle, on pourrait se dire plus d'Américains ont accès au crédit parce qu'ils se sont enrichis, mais en fait non. Les banques acceptent de faire des crédits via ces cartes à des Américains que l'on nomme en anglais, tenez-vous bien, subprime borrower. Et oui, 10 ans après la crise, cet adjectif n'a pas disparu et il désigne encore les personnes qui ont un profil financier plus risqué que la moyenne. Alors pas d'affolement encore à ce stade, les défauts de paiement sur ces cartes de crédit reste faible, 1,7% contre 4% au moment de la crise. En revanche, la situation devient inquiétante pour les pré-étudiants où le nombre de défauts là dépasse les 10%. Ce n'est pas une menace pour l'économie mondiale car les montants de ces prêts sont faibles comparés aux crédits hypothécaires et ils n'ont pas été rachetés par toutes les banques de la Terre. Mais c'est un problème car cela montre qu'un diplôme financé à crédit donne de moins en moins accès accès à un emploi permettant de rembourser ce crédit. La classe moyenne étant la plus touchée par ce phénomène, cela renforce les inégalités déjà grandissantes aux États-Unis.
Merci Marie Viennot pour votre éclairage. La pression internationale s'accroît sur le Venezuela. L'ONU a dénoncé ce midi un usage excessif de la force dans le pays. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme accuse les forces de sécurité et les milices pro-gouvernementales d'être responsables de la mort d'au moins 73 manifestants de l'opposition contre le président Nicolas Maduro, président qui tente d'imposer depuis le week-end dernier une assemblée constituante controversée. Bonsoir Jacqueline Fardel.
Bonsoir Anne.
Les équipes du Haut Commissaire des droits de l'homme ont interviewé à distance plusieurs victimes.
Effectivement, les enquêteurs de l'ONU n'ont pas pu se rendre sur place dans le pays, refus des autorités vénézuéliennes, mais ils ont pu par exemple interviewer les membres du bureau de la procureure Luisa Ortega, limogée samedi. Dans les dossiers, des enquêtes sur 124 décès dans le cadre des manifestations, plus de la moitié serait due aux forces de l'ordre ou aux groupes armés pro-gouvernementaux. Depuis le 1er avril, date du début des manifestations, plus de 5000 personnes auraient également été placées en détention. 1000 personnes seraient encore sous les verrous dans des conditions de violence extrême. Plusieurs rapports fiables dénoncent le recours aux décharges électriques, l'asphyxie par le gaz ou encore des menaces de mort et de violence sexuelle, et les arrestations continuent. Aujourd'hui, c'est un maire de l'opposition qui a été condamné à 15 mois de prison par la Cour suprême. Ramón Muchacho a été reconnu coupable d'outrage dans son district de Chacao, bastion de l'opposition à l'est de Caracas. Il n'a pas respecté une décision judiciaire. Elle ordonnait la levée des barricades des manifestants.
Alors Caracas condamné par l'ONU aujourd'hui, mais aussi par les pays de la région avec une réunion en ce moment même à Lima, au Pérou.
Les ministres des Affaires étrangères de 15 pays latino-américains sont réunis à l'initiative du gouvernement péruvien. Lima qui dénonce une claire trahison à l'ordre démocratique et qui demande une réaction à l'échelon régional. Du Mexique au Brésil, de l'Argentine au Panama, de nombreux pays de la région ont déjà refusé de reconnaître l'Assemblée constituante. Mais le président colombien Santos avertit aujourd'hui une rupture diplomatique avec le Venezuela n'est pas à exclure. En attendant, les ministres réunis dans la capitale péruvienne devraient condamner une nouvelle fois le régime de Maduro et demander la tenue d'une élection présidentielle dès 2018.
Merci Jacqueline Fardel pour votre compte-rendu. Au Kenya, les 19 millions d'électeurs ont voté pour élire leur président aujourd'hui. Aujourd'hui, le chef de l'État sortant, Kenyatta, est opposé notamment au chef de l'opposition, Odinga. Les sondages donnent les deux hommes au coude à coude et les premiers résultats ne sont pas attendus avant demain. Les Kenyans élisent aussi leurs parlementaires et leurs représentants locaux des élections générales qui ont été bien suivies, Bruno Meyerfeld.
Jusqu'ici, tout va bien. Les Kenyans se sont rendus en masse aux urnes toute la journée. Devant les bureaux de vote, il y avait des files invraisemblables s'étirant sur plusieurs centaines de mètres. Mais malgré l'attente, parfois 6 ou 7 heures, personne au Kenya n'a renoncé. À Nairobi, sur la côte, dans les petits villages des Maasai et jusqu'au camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand du monde, on s'est accroché et on a voté. Une belle image de la démocratie kenyane, probablement aujourd'hui à son meilleur. Le tout certes a entraîné quelques scènes de chaos, quelques blessés et quelques couacs. 15 bureaux de vote n'ont pas ouvert leurs portes dans le nord à cause d'inondations. On s'est embrouillé aussi parfois entre les 6 urnes colorées et autant de bulletins de vote. Il y a eu enfin quelques tentatives de fraude vite écartées, mais globalement la technologie utilisée, biométrique et très avancée, a tenu le coup. Alors maintenant, le scrutin entre dans sa phase la plus dangereuse, celle du décompte des voix, là où toutes les fraudes sont possibles, une séquence très périlleuse et qui pourrait prendre plusieurs jours.
Le reportage de Bruno Meyerfeld. Les Nations Unies surveillent aussi avec attention la Centrafrique. L'ONU qui a évoqué des signes avant-coureurs de génocide hier. Au moins 34 morts dans des violences ont été recensées à la fin du mois dernier. Violences entre groupes armés dans le nord-ouest et le sud du pays. La Centrafrique qui peine à sortir du conflit qui a commencé en 2013 entre groupes armés Seleka, majoritairement musulmans, et anti-Balaka, principalement chrétiens. Enfin, en Iran, le président Hassan Rouhani, réélu en mai dernier, s'attire les critiques du camp réformateur à l'occasion de la présentation de son nouveau gouvernement ce matin au Parlement. 17 des 18 membres déjà nommés sont d'anciens politiques plutôt âgés, contrairement aux promesses de renouvellement du chef de l'État pendant sa campagne. Les précisions de notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.
La liste du nouveau gouvernement confirme l'inquiétude des réformateurs et des activistes qui avaient réclamé la nomination de femmes et de jeunes dans le nouveau cabinet. En effet, il n'y a aucune femme nommée pour les postes ministériels. Le président Rouhani devrait en revanche nommer des vice-présidentes, comme c'est le cas actuellement. Le président ultra-conservateur populiste Mahmoud Ahmadinejad a été le seul président iranien à nommer une femme dans son gouvernement. Marzieh Dastgerdi avait occupé le poste de ministre de la Santé entre 2009 et 2013. De même, en dehors du ministre des Télécommunications, âgé de 36 ans, les autres ministres nommés sont plutôt âgés. Hassan Rouhani, réélu triomphalement en mai dernier, avec le soutien des jeunes et des femmes, a visiblement opté pour la continuité. Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et le ministre du Pétrole, Bijan Namdar Zangane, conservent leur poste. Le Parlement commencera à voter la confiance dans une semaine. Chaque ministre doit obtenir individuellement la confiance des parlementaires. Des députés réformateurs ont récemment affirmé que plusieurs membres du gouvernement pourraient ne pas obtenir la confiance. Le Parlement est dirigé par le conservateur modéré Ali Larijani, mais aucun des groupes réformateurs ou conservateurs n'a la majorité.
Correspondance à Téhéran de Siavosh Ghazi. Journaliste, écrivain, Gonzague Saint-Bry avait remporté en 2002 le prix Interallié pour les vieillards de Brighton. Il devait organiser, comme tous les ans, son festival littéraire La Forêt des Livres à la fin du mois en Indre-et-Loire. Festival endeuillé puisque l'homme âgé de 69 ans est mort la nuit dernière dans un accident de voiture en Normandie. La météo de votre mercredi matin. Le ciel restera couvert sur la majeure partie du pays avec des ondées à l'ouest de la diagonale Strasbourg-Biarritz, temps ensoleillé sur le littoral méditerranéen et les températures, elles iront de 15 à Cherbourg jusqu'à 26 degrés à Marseille. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau. À la technique, c'était Pierrick Monsigny.